France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, quelle attitude pour la vieille Europe face à la poussée migratoire? Alors que l'Union européenne s'enfonce dans la crise, qu'elle est incapable de parler d'une seule voix sur ce dossier, que l'heure est au chacun pour soi, avec pour conséquence une montée des extrêmes et des partis anti-système dans bon nombre de pays. On l'a encore vu dimanche dernier en Italie. On va s'arrêter ce soir sur la réalité des faits, sur le nombre de migrants arrivés ces dernières années dans l'Union, sur les voies empruntées, les pays d'origine, sur ce que représentent ces nouveaux venus dans la population globale. Et on se demandera pourquoi la question des frontières est désormais au cœur du débat politique, pourquoi elle fait tellement peur aux dirigeants européens. Pour en parler avec nous ce soir, Jérôme Fourquet, directeur du pôle Opinion à l'IFOP. Bonsoir.
Bonsoir.
Auteur, je le rappelle, aux éditions de l'Aube d'un ouvrage intitulé « Accueil ou submersion, regard européen sur la crise des migrants ». Catherine Vitold-Venden, bonsoir à vous, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des migrations internationales. Vous avez publié, entre autres, « Faut-il ouvrir les frontières ?», c'est aux presses de Sciences Po. Auteur également de « La question migratoire au XXIe siècle, migrants, réfugiés, relations internationales », toujours aux presses de Sciences Po. Et je crois que votre atlas des migrations sera réédité fin mai.
Sera terminé fin mai.
Bientôt.
Mais réédité avant la fin de l'année 2018, voilà. De toute façon.
Bientôt. Toujours avec nous, le docteur Xavier Emmanuelli, ancien secrétaire d'État à l'Action humanitaire d'urgence, dont le dernier livre s'intitule « Accueillons les migrants » aux éditions de l'Archipel. Rebonsoir. Et toujours avec nous, Julie Pietri, chargée des questions d'asile et d'immigration à la rédaction de France Inter pour nous joindre. Le numéro, c'est toujours le même, le 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Le téléphone sonne.
Dans le monde où nous vivons, on peut défendre des belles idées, mais on ne peut pas les défendre en faisant abstraction de la brutalité du contexte. Et l'Italie a aujourd'hui, indéniablement, souffert de la pression dans laquelle elle vit depuis des mois et des mois, et le contexte de très forte pression migratoire. Nous devons aussi le garder en tête pour ce qui nous concerne.
Voilà ce que disait Emmanuel Macron lundi au lendemain des législatives en Italie, un scrutin vécu comme un avertissement par le président français, ce qui n'a d'ailleurs pas échappé à Marine Le Pen.
Emmanuel Macron, en voyant les résultats des élections italiennes, s'est dit « Mais après tout, est-ce que ça ne pourrait pas m'arriver d'ici quelques années ?»
Voilà Marine Le Pen, ravie de voir que ses amis de la Ligue sont arrivés en deuxième position derrière le mouvement 5 étoiles, à l'issue d'une campagne où la question migratoire a donc été au cœur des débats et l'Italie n'est pas un cas isolé. Partout en Europe, les mouvements europhobes et anti-migrants ont le vent en poupe. Alors, quelles leçons en tirer? C'est précisément le thème de ce téléphone sonne. Et on prend un premier appel, celui de Patrice qui nous appelle de la Meuse. Bonsoir,
oui, bonsoir.
Patrice. Bienvenue à
bonsoir.
Vous. On vous écoute.
Je veux savoir si la frilosité de l'Europe face à une politique d'accueil est plus une question d'identité qu'une question d'argent. Si on considère les deux approches, par rapport à la question financière, je pense qu'il n'est pas normal, évidemment, de laisser à l'Italie l'accueil de tous les migrants. Mais je ne peux pas comprendre que l'Europe ne puisse accueillir proportionnellement, voire même en valeur absolue, moins de migrants que certains pays, comme le Liban ou la Jordanie, qui, eux, accueillent de 18 à 33% de leur population, ce qui est énorme. Et puisqu'il est une question d'identité, c'est particulièrement choquant, même révoltant. Avec la révolution des communications, on se rend compte que sa patrie, c'est tout autant son pays, mais aussi la planète où nous vivons. Et je crois qu'il y a un égoïsme de nombreux citoyens et une indifférence de la misère humaine qui est vraiment répugnante. Si on reprenait une célèbre expression de Coluche, il faudrait décoller la pulpe du fond à tous ces abrutis nationalistes, voire fascistes, qui n'ont pas encore intégré que le monde a changé, qui gangrène toute l'Europe et dont les idées sont malheureusement reprises par les droites traditionnelles, voire même parfois jupitériennes.
Merci beaucoup Patrice pour cette entrée en matière. Qui veut répondre en premier à Patrice? Catherine Vitold-Venden peut-être?
Je vais essayer.
Il y a beaucoup de choses dans sa question, voilà, mais il y a question, notamment la question de l'Europe qui est posée, hein,
oui,
face à ce mouvement migratoire. Est-ce que c'est vraiment, on l'a dit je crois déjà, c'est la plus grande vague migratoire depuis la Deuxième Guerre mondiale en Europe?
Oui, c'est une grosse vague migratoire. On en a eu dans le passé, on a eu quand même après la chute du mur de Berlin, beaucoup de migrations d'est en ouest à cette période-là. Mais là, en termes d'asile, effectivement, c'est la plus grande vague migratoire. On a eu 1,2 million de demandeurs d'asile, par exemple, en 2015. On n'avait jamais eu autant. Alors, en fait, la difficulté, c'est que l'Europe, qui a été une grande terre de départ, il ne faut pas l'oublier, a beaucoup de mal à se considérer comme terre d'immigration. L'idée que l'Europe se constitue avec des nouveaux arrivants est complètement absente de la définition de l'identité européenne, même si cette identité européenne, pour les Européens, se définit essentiellement avec la citoyenneté européenne autour de la mobilité, puisque les droits essentiels des Européens, c'est la liberté de circulation, d'installation et de travail. Donc, il y a une sorte de paradoxe. Pour nous, la mobilité, et pour les autres, on ferme les frontières. C'est aussi l'esprit des accords de Schengen, qui ont, en 90, défini l'ouverture des frontières intérieures et la fermeture des frontières extérieures. Donc, il y a une certaine illégitimité de la question migratoire dans les thématiques européennes, parce qu'elles sont quasiment absentes, et chaque pays à sa guise, en fonction de sa définition de ce qu'est l'identité nationale, gère tant bien que mal les questions migratoires. À Bruxelles, depuis plusieurs années, c'est géré dans le sécuritaire, puisque les questions migratoires sont gérées par ce qui concerne tout ce qui est les affaires intérieures, justice et affaires intérieures. Avant, c'était les questions de travail qui géraient les migrations, avant le traité d'Amsterdam, avant 1997. Donc on est dans un contexte où la migration est considérée comme relevant essentiellement des questions de police et de sécurité. Et pour le reste, ben, on applique tant bien que mal le droit d'asile, puisque les pays européens sont signataires de la Convention de Genève sur les réfugiés.
Merci beaucoup. Sur la question de l'identité, Jérôme Fourquet, question que posait Patrice, notre premier auditeur. Cette vague migratoire, elle renvoie tout de suite à cette question d'identité ici en Europe ?
Oui, mais pas qu'en Europe. Hein. Regardez ce qui se passe aussi aux États-Unis, et puis on peut regarder même dans d'autres pays, les pays du Sud, hein, parce qu'on en parle moins, mais il y a beaucoup de migrations qui s'y font. Et donc en fait, on est rentré dans l'âge de la globalisation, de la mondialisation. On va parler tout à l'heure des frontières qui peuvent être érigées pour protéger des industries, mais aussi pour défendre et délimiter des identités. Et je pense que, comme il a été rappelé à l'instant, l'Europe s'est construite sur... la construction européenne a été bâtie sur un autre schéma, à une autre époque. Hein, on parlera peut-être tout à l'heure des fameux Dublinés.
Hein, on en parlera.
Le seul problème, c'est que l'équation a totalement changé. Hein, oui, bien évidemment, la question de l'identité est au cœur des débats politiques actuels. Et cette question migratoire, notamment avec des populations qui, pour l'essentiel, viennent du Sud, qui, pour une part d'entre elles, sont de confession musulmane, parce qu'il y a bien évidemment tout ça qui arrive en arrière-fond. Hein, rappelez-vous, en France, à l'automne 2015, certaines municipalités qui se déclaraient favorables à l'accueil de réfugiés syriens ou irakiens, mais
chrétiens,
à la condition qu'ils soient qu'ils appartiennent à la communauté des chrétiens d'Orient. Bien évidemment, cette question identitaire, elle est là. La globalisation a fait monter en puissance la crainte d'une perte d'identité, d'une dissolution, et la figure du migrant, si vous voulez, elle incarne au sens premier du terme cette crainte et cette inquiétude d'une dilution, d'une disparition de son identité. Donc, il ne faut pas non plus, je pense, prendre de ces questions-là à la légère et manier l'anathème sur les gens qui seraient, entre guillemets, bas du casque et qui se recroquevilleraient. C'est des questions qui sont éminemment sensibles.
Hein, et c'est pour ça qu'on entendait tout à l'heure Emmanuel Macron qui...
Et qui prenait
ça comme un avertissement.
Et exactement. Et on entendait aussi Marine Le Pen qui se réjouissait peut-être un peu vite des conséquences que cela pourrait avoir en France. Mais je pense que le fait de prendre un petit peu à la légère et d'un point de vue un peu en surplomb les réactions d'inquiétude de toute une partie de la population ne fait que renforcer cette colère et cette inquiétude. Donc je pense qu'il faut être très prudent aussi dans la façon dont on aborde ces questions-là.
D'autant qu'il y a des résultats électoraux qui sont ce qu'ils sont et qu'on ne peut pas ne pas en tenir compte, Xavier Emmanuelli.
Pour rebondir sur ce que vous disiez, quand vous voyez des phénomènes comme la Catalogne, la Corse, la recherche d'une identité, d'une accroche, c'est le thème du jour, si j'ose dire. Et bien sûr, à l'Europe, qui est totalement un marécage totalement dilué, qui n'est pas construite, et qui ne se construira pas, si elle ne prend pas à bras le corps les migrants, elle ne peut pas construire. L'Europe va crever des migrants. Vous n'avez qu'à regarder la moitié de l'Europe de l'Est, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la Tchéquie, tout ce que vous voulez, ne veulent pas un migrant. Par contre, ils ont eu des émigrants, eux. Et puis, d'autres aussi qui ne veulent pas mieux, je pense à l'Autriche. Je ne parle pas de l'Angleterre. Comment voulez-vous avoir une opinion commune? Alors, on dit, on les renvoie d'où ils viennent, c'est-à-dire en Grèce. Et en Grèce, on a trouvé une astuce. On les renvoie chez Erdogan. On les consigne dans les îles ou en Italie. Et bien après, qu'on ne soit pas étonné, les Italiens vous disent, mais écoutez, on est seuls, vous nous avez abandonnés. Il n'y a aucune raison qu'on ait la fatalité géographique d'avoir ces gens-là. Nous aussi, on a eu tellement de mal à faire une unité italienne avec le Nord, le Sud. C'est pas encore rentré dans les mœurs. Hein. L'Italie, elle est encore morcelée dans les têtes de...
Et dans les résultats électoraux aussi, on voit ouais, la coupure.
C'est qu'il y a une coupure. Ils n'ont pas encore digéré que pourtant Garibaldi, mais c'est que c'était un seul pays. Donc on se débrouille et on se replie sur ce qu'au moins ce qu'on est, notre patrie. Je dis pas qu'on va revenir à D'Annunzio, mais je pense pas au fascisme, mais je pense à un nationalisme fort.
En tout cas, c'est pour l'instant une pré-naufrage de l'Europe, ça on peut le dire. Julie Pietri, un petit mot.
Oui, même la France ne prend pas sa part en fait. Il y a quelque chose qui est très symptomatique, c'était le programme de relocalisation 2015-2017 de l'Europe, où ils avaient prévu d'accueillir 160 000 personnes, de faire venir, de soulager justement l'Italie et la Grèce en disant on va se répartir 160 000 personnes.
Et ça, faut dire quand même que c'est le président de la Commission qui avait proposé, c'était Jean-Claude Juncker. Il y avait quand même eu une initiative à ce niveau-là.
Et le résultat, au total, au bout de deux ans, c'est 30 000 personnes. La France, par exemple, elle a pris 20% des personnes qu'elle s'était engagée à accueillir, seulement.
On repart au standard de France Inter. Vous aurez tous la parole parce que c'est le téléphone sonne et que nous allons prendre Christian qui nous appelle. Christiane, pardon, bonsoir Christiane. Elle est partie. Peut-être Nikita est en ligne.
Allô?
Oui, bonsoir.
Bonsoir la France Inter.
Bienvenue
ouais, à vous. J'avais juste un petit commentaire à faire parce que je suis un soutien de réfugiés moi-même à Paris, sur les campements, les pieds dans la merde. Et je voudrais dédier mon intervention à celui qui est mort avant-hier devant le camp de la Chapelle. Excusez-moi, c'est une note un peu triste. Et je rejoins un peu le sentiment de monsieur Emmanueli que j'adore entendre parler comme il parle, quoi. Et la question que je me pose pour avoir été sur ces campements, c'est en entendant tous ces gens qui disent faut-il les accueillir ou pas les accueillir, ces réfugiés, ces migrants, ces gens qui nous arrivent. C'est comme il dit, on n'a pas le choix. On est face à des conflits pétropoliens de politicards qui sont morts de trouille. Et en fait, c'est le comment. C'est le comment qu'il faut mettre en œuvre et en urgence. Comme il dit, c'est sur 5 générations que ça va se passer. Et c'est pas nos politicards avec dans leurs conflits pétropoliens sur qui assume quoi à se rebalancer les mômes qui nous arrivent par-dessus les frontières. Ça n'est pas possible de raisonner comme ça, quoi. Et qu'on va être responsable de beaucoup de morts si ça continue comme ça.
Merci.
Et leurs fantômes viendront nous hanter. Merci. Si on fait pas la bonne décision. Merci beaucoup de m'avoir pris.
Mais je vous en prie, Nikita, je suis obligée d'accélérer un petit peu pour que vous soyez nombreux ce soir à intervenir sur l'antenne d'Inter. Catherine Wittel-Venen, une petite chose importante que disait Nikita au passage, c'est que tout cela va se poursuivre. Oui, ça paraît être une réalité.
Absolument. C'est un mouvement de fond. Un mouvement de fond parce qu'on est, ça a été dit d'ailleurs, dans un contexte de mondialisation. Donc, ce qui se produit ici a des conséquences là-bas. Tout est interdépendant. Et aujourd'hui, la migration vers l'Europe, elle est plus seulement conjoncturelle comme c'était le cas dans le passé. De temps en temps, on avait besoin de main-d'œuvre. De temps en temps, il y avait des crises. Il fallait accueillir les réfugiés. C'est un phénomène structurel mondial d'entrée en mobilité d'une partie du monde qui rencontre le monde et qui considère que c'est avec cette mobilité qu'on pourra mieux s'en sortir que si on reste chez soi, ce qui a d'ailleurs été montré par tous les travaux économiques sur la question. Donc il faut accepter cette réalité, qu'on soit pour ou contre, et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Je crois que c'est surtout ça l'enjeu aujourd'hui.
Alors, concernant Jérôme Fourquet de l'IFOP, concernant ce que disait Nikita sur ces politicards qui n'acceptent pas ces arrivées, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, au niveau de l'opinion? Est-ce que ça a été mesuré?
Alors, on peut se dire aussi qu'on a parfois les dirigeants qu'on mérite, peut-être, ou que on est sur le fameux schéma de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire est-ce que c'est les politiques qui font l'opinion ou est-ce que c'est les politiques qui suivent l'opinion publique? C'est un vaste débat. On voit dans certains pays, je pense, alors dans l'exemple est pas forcément le mieux choisi, sur l'Italie, mais que par exemple la prise de parole du pape. Nous, on l'a vu dans nos enquêtes, eu un impact au moment où il était revenu de Lesbos avec une douzaine de migrants, dont les services du Vatican avaient bien précisé qu'ils étaient musulmans, eh bien, ça avait eu un impact auprès des catholiques français, hein, qui étaient très partagés, comme le reste de la population, entre le devoir d'accueil, la charité chrétienne, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, et puis charité bien ordonnée commence par soi-même. Et on voyait que le pape, voilà, avec une parole forte, avait réussi à faire bouger les lignes dans un segment de la population. Si on prend le cas de l'Allemagne, on voit que, certes, le parti d'extrême droite
AfD,
qui a fait toute la campagne contre les migrants, a réussi une percée historique. Néanmoins, la prise de position d'Angela Merkel et d'un certain nombre de dirigeants allemands a sans doute facilité le fait que l'accueil se passe pas forcément dans des conditions optimales, mais qu'il y ait un degré d'ouverture qui soit. Donc il y a bien évidemment les émetteurs ont un rôle, mais il y a aussi, je pense, il faut le prendre en compte. Encore une fois, je reviens là-dessus sur la très forte angoisse, l'inquiétude à la fois identitaire. La première question qui était posée, c'était le poids économique. Hein, on a quand même plusieurs millions de chômeurs en France. Et quand on peut regarder en laboratoire en disant oui, ça va se passer sans doute pendant 5 générations. Mais il faut mesurer aussi l'impact et l'écho que tout cela a dans les populations locales qui vont être chargées de l'accueil. Différentes études ont montré que quand les centres d'accueil avaient été créés, que dans des petites villes ou des villages, il y avait quelques 10, 15, 20 personnes qui étaient... Les choses, quand elles étaient à taille humaine et raisonnable, l'intégration pouvait... on a des récits voilà de jeunes qui rentrent dans les équipes de foot, qui deviennent apprentis ou autres. Tout ça se passe bien. Ce qui inquiète très fortement, et les images qui ont été fortement diffusées dans les médias toutes ces dernières années sont là pour renforcer ce sentiment, c'est la question de la perte de contrôle. Hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois... qu'il s'agisse d'un centre d'accueil, d'une frontière, de Calais ou autre, à chaque fois, c'est la métaphore hydraulique. La vague, la submersion, le titre de mon livre, Accueil ou submersion, nous sommes débordés, on parlait du centre d'accueil de la Chapelle qui est prévu pour 400 personnes, 3 jours après, on en a 3000, et les gens qui regardent ça en France ou en Europe se disent mais tout ça est complètement hors de contrôle. On a parlé de politicard, un président de la République qui avait utilisé la métaphore de la maison en disant voilà, il y a une fuite d'eau, on va dévier.
Ça, c'était Nicolas Sarkozy.
C'était Nicolas Sarkozy pour mettre le sous-titre. Et donc, toutes ces métaphores-là, bien évidemment, sont très, très anxiogènes. Donc, il y a l'idée, pour qu'on ait une acceptation relative de la part de l'opinion, c'est l'idée qu'il faut démontrer que les choses sont à peu près jugulées, après réglées, ce à quoi s'emploie. Ça va être débattu, je pense, Emmanuel Macron et son gouvernement, en disant on essaie de reprendre les choses en main et de faire ça à échelle humaine. Parce que bien évidemment, tout ce dont on parle est très fortement anxiogène.
Qu'est-ce qu'on peut dire de la parole des politiques, Xavier Emmanuelli, dans un dossier comme celui-là ?
Deux choses, si vous permettez. Quand il y a eu des migrants italiens, puisque c'est mon peuple favori, des migrants qui étaient économiques, ils venaient de partout, même des Pouilles, ils venaient en France, ils venaient en Argentine, partout. Ils ne trouvaient pas de boulot. C'était des chrétiens. La France était chrétienne. Il y avait aussi des Polonais qui étaient des chrétiens. Ils ont été rejetés. Ils ont été lapidés, certains. Il y a eu des morts. Alors qu'on ne me dise pas que c'est une question d'identité ou de religion, on était de la même religion. Et ils se sont intégrés quand même. Et les Italiens sont revenus. Et c'est ça qu'on oublie. C'est que, par exemple, les Syriens, ils reviendront. Ils reviendront parce qu'on revient toujours dans...
Ils rentreront chez eux, c'est ça
oui.
que vous voulez dire.
Pas tous. Les Italiens, les deux tiers sont revenus. Et ils ont apporté quelque chose à leur pays. Ils ont construit leur pays. Donc, on dit ça. La deuxième chose, oui, on a des structures qui sont trop petites. On est à l'étroit dans nos structures. Eh bien, je vois loin, puisque je sais qu'il y a 5 générations. Je mets à la taille normale pour le phénomène qui grandit. Et donc, j'augmente. Mais de toute façon, on ne s'en tirera pas tout seul en France. Si on ne fait pas au niveau de l'Europe, l'Europe est criminogène. Parce que qui est-ce qui va s'engraisser ? C'est les passeurs. Si vous avez de l'argent, vous pouvez aller en go-fast, du fin fond du Nigeria jusqu'en Hollande, si vous payez. Et donc, c'est l'Europe du crime qu'on est en train de... Et une Europe qui ne se construit pas. Qui ne se construira jamais si on continue à faire chacun pour soi. Car je vois très bien qui seront les présidents du Parlement. Ils défendent d'abord les intérêts de leur pays. Là, c'est la Bulgarie. Le prochain coup, ça sera l'Autriche. Allez savoir. Et quand c'était la Pologne, on sait. Donc, il va falloir un coup de pied dans la fourmilière. Moi, je suis comme vous, je compte sur Macron, il a une bonne presse, c'est à l'Europe qu'il doit travailler, c'est à l'Europe. On l'attend là.
Alors à propos de la solidarité en Europe, Julie Pietri, peut-être un mot, on peut le faire maintenant sur les Dublinés dont parlait Jérôme Fourquet tout à l'heure. Un petit mot pour expliquer
ce que c'est qu'un Dubliné,
ce que c'est qu'un Dubliné et à quoi ça sert. Enfin, ça permet notamment de renvoyer ceux qui ont fait leur demande dans un autre pays.
Voilà, c'est ça. Bon, il y a plusieurs catégories. Il y a des personnes qui sont déboutées de l'asile en Allemagne, par exemple. L'Allemagne étudie leur demande d'asile. Ils sont rejetés et ils tentent leur chance puisque c'est pas harmonisé au niveau européen en France, mais ils sont enregistrés en Allemagne, donc la France dit non. Vous repartez. Et puis il y a tous ceux à qui on prend les empreintes un peu sans qu'ils aient vraiment conscience de ce que ça veut dire en Italie et qui se retrouvent en France, qui n'ont pas vraiment compris que du coup, ils ne peuvent pas faire leur demande d'asile en France. Il faut qu'ils attendent sur le territoire clandestinement un certain temps avant de pouvoir le faire. Et c'est aussi pour ça qu'on a des gens à la rue en France en ce moment.
On repart au standard de France Inter.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
On a retrouvé Christiane qui nous appelle de Vendée. Bonsoir Christiane.
Oui, bonsoir à vous tous. Merci pour vos émissions. Donc oui, je suis d'accord vraiment avec monsieur Emmanueli, bien sûr, et puis aussi avec l'auditeur qui était un petit peu emporté là auparavant.
Nikita.
Voilà, ce que je voulais dire, c'était par rapport au début de votre émission quand vous avez parlé donc de l'Italie et du résultat des élections, toute l'Italie n'est pas xénophobe et loin de là. Et je voulais donner l'exemple de la Calabre, du sud de la Calabre. Vous avez des villages et je pense à un village qui s'appelle Riazze, qui a accueilli 6000 migrants en 25 ans et le village est passé de 900 habitants en 98 à 2100 en 2016 et ils accueillent toujours et ça se passe très bien. Les gens restent là le temps de reprendre des forces, d'apprendre l'italien, le français, enfin d'apprendre les langues des pays dans lesquels ils veulent se rendre. Les habitants s'occupent d'eux, les plus anciens s'occupent des nouveaux. Enfin, il y a vraiment une hospitalité vraiment extraordinaire. Et bon, ce sont des villages, mais bon, pas des villages riches, hein. Ce sont pas, à mon avis, ce sont les plus pauvres, des plus pauvres de l'Italie, qui font vraiment le nécessaire. Donc,
ne pas généraliser, c'est ça que vous voulez dire, Christiane.
Voilà, il faut absolument pas généraliser. Et puis, il faudrait donner en exemple. Comme ce que vous faites ce soir dans les médias, beaucoup plus d'exemples d'accueil chaleureux et vraiment des reportages sur ce qui se passe réellement, parce que même en France, vous avez des villages dans le sud de la France qui ont accueilli et des enfants et des personnes.
Il y a des initiatives, on est tout à fait d'accord, Christiane.
Voilà, ce sont nos, comme l'auditeur auparavant, moi j'ai honte de nos politiques, parce qu'avec l'argent que l'on a, nous sommes quand même presque 500 millions, enfin pratiquement 500 millions d'Européens. Donc on peut quand même accueillir, on n'est pas encore submergé, je veux dire, il n'y a aucune vague. Enfin, je sais pas encore.
Merci Christiane, merci beaucoup Catherine Wittold-Wenden. Quand on compare effectivement avec certains pays du Proche-Orient, la proportion de migrants, elle est limitée encore.
Alors, de réfugiés. Alors les migrants, c'est encore plus large que les réfugiés, mais ne serait-ce que pour les réfugiés, je vous dis le pic, ça a été 1,2 million 2015, et on a 506 millions d'Européens. Alors que en Turquie, actuellement, pour 80 millions, ils ont près de 4 millions de réfugiés. Au Liban, ils ont accueilli le quart de leur population. à peu près un peu plus d'un million, et en Jordanie, 600 000 sur un pays qui est très peu peuplé. Donc, ils ont eu une vague considérable. Alors, peut-être que le choc culturel que certains dénoncent n'existe pas parce que c'était l'Empire ottoman, toute cette région, qu'ils sont pour la plupart des musulmans, une grande partie sont parlant arabe dans le pays de départ et dans le pays d'accueil. Ceci dit, pour des pays qui ne sont pas aussi riches que l'Europe, c'est un effort considérable. Et pour l'Italie, je dirais juste une chose, ce ne sont pas les régions qui ont eu les plus gros afflux qui ont voté pour les partis anti-immigrés, puisque c'est dans le sud, on n'a pas eu le raz-de-marée du populisme, alors que c'est dans ces régions-là qu'il y a eu le plus d'arrivées depuis 10 ans.
Jérôme Fourquet, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec
la ligue qui s'appelait Ligue du Nord
et
avant.
Qui s'appelle la ligue tout court.
Voilà, maintenant fait ses meilleurs scores effectivement dans le nord de l'Italie, mais deux choses, même s'ils ont mis un peu d'eau dans leur vin, le mouvement 5 étoiles n'était pas forcément un parti au discours très pro-migrant, hein, il faut quand même rappeler les choses. Et puis, deuxièmement, attention, vu de France, on s'est concentré beaucoup sur cette crise des migrants qui, évidemment, a joué un rôle majeur dans les résultats de l'élection italienne, mais il y avait aussi tout un discours anti-système, l'impact de la crise économique, parce qu'on revient aussi sur l'Europe, hein, ces pays, la Grèce et l'Italie, ont encaissé, certes, depuis 2015, le choc migratoire, mais avant, il y a eu le choc de la crise de l'euro. Et l'Italie, que M. Emmanueli connaît bien, a revu de nouveau une partie de sa jeunesse être obligée de s'expatrier. Hein. Donc il y a aussi tous ces éléments-là, avec une classe politique qui jouait à guichet fermé, etc., etc. Donc on a un bouillon de culture qui est tout à fait spécifique. Un des ingrédients majeurs, bien évidemment, c'est la crise migratoire, mais il y a aussi d'autres facteurs qui ont joué dans le choc qu'on a connu.
Pour en revenir à la politique française, est-ce que vous sentez un infléchissement de la position d'Emmanuel Macron, ou au moins de son discours depuis quelques temps ?
Alors ça dépend depuis quand vous m'interrogez. En tout cas, ce qu'on peut dire, je pense, objectivement, c'est qu'en termes de discours, il y a quand même un changement de pied par rapport au discours qui a été tenu pendant la campagne présidentielle, où Emmanuel Macron prenait en exemple Angela Merkel dans un discours très pro-européen, en disant que c'était la chancelière allemande qui avait sauvé l'honneur de l'Europe. Et aujourd'hui, quand vous reprenez encore une fois objectivement les propos d'Emmanuel Macron, on a quand même le sentiment qu'il y a quand même un léger recadrage. Avec, là aussi sur ce sujet, la fameuse formule du « en même temps », c'est-à-dire bien accueillir les demandeurs d'asile tout en étant ferme sur tous les autres, avec la question très sensible et douloureuse de comment faire le tri, je mets 36 guillemets, sur ces populations qui arrivent. Hein, mais Emmanuel Macron n'était pas sur un discours de cette nature-là il y a quelques mois de mémoire.
Il a évolué. Xavier Emmanueli.
Il ne faut pas avoir peur du mot tri. Sans ça, il n'y a pas d'asile si vous ne triez pas. Donc, ce n'est pas un mot tabou. On peut appeler triage. Qu'est-ce qui s'est passé à Ellis Island si ce n'était pas un triage ? On a besoin de ce triage.
Et donc de renvoyer ceux qui ne...
De renvoyer où ? Ça, c'est une autre question. Je peux en parler, mais il y a quand même une formule que je voulais dire. Le monde entier est sur les routes. Vous voyez ?
Et 70 millions de déplacés à peu près, c'est ça ?
À l'échelle mondiale, c'est 1 milliard, mais on a 740 millions de migrants internes et 260 millions de migrants internationaux. Et puis, les réfugiés sont, parmi eux, moins nombreux, effectivement.
La face du monde va changer. Et notre culture, notre culture d'abondance, l'Europe s'est construite sur l'économie. On a oublié qu'il y avait un ajustage social à faire. Bien sûr, il y a un problème économique, mais il y a aussi un problème culturel qui va se poser, qu'il faut regarder. Regardez, les gens ne veulent pas spécialement l'asile en France, mais enfin, ils n'ont pas le choix. S'ils demandent l'asile, ils ne pourront pas aller dans un autre pays avant 5 ans. Ça veut dire qu'on les coince bien. Et puis, vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe dans les îles, c'est des prisons à ciel ouvert.
On repart au standard. Cette fois, Pierre est en ligne de Metz. On le salue. Bonsoir Pierre, bienvenue à vous.
Bonsoir. L'émission de ce soir est intéressante parce que une partie des interventions se concentre sur l'avenir. À l'instant, on vient d'en parler. Ce qu'il faut bien comprendre, me semble-t-il, c'est qu'en effet, il y a pour 5 générations, une 50aine d'années à prévoir. Et c'est des flux d'environ 150 000 demandeurs de protection par an qui vont venir avec les réfugiés les demandeurs de protection sur les problématiques de climat, de conflit, etc. Donc, il y a à préparer calmement, sans être pris par surprise, comme la France l'est toujours, calmement des structures pérennes sur l'ensemble du territoire, pas confiées à l'État, qui est un peu pataud sur ce genre d'histoire, mais aux collectivités territoriales et aux associations spécialisées de l'accueil. Et répartir ça sur l'ensemble du territoire, les villages, c'est une métaphore de solidarité internationale. Donc préparer calmement maintenant, de sorte que pour dans les dizaines d'années qui viennent, dans chaque département, il y a plusieurs structures qui accueillent 400, 300, 400 demandeurs de protection, et qu'on les garde, qu'on les forme, etc. Merci. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je suis très content qu'une intervenante ait enfin, c'est là, une des très rares fois que j'entends ce type d'intervention, en particulier sur France, qui est la question de prendre notre part, la France. On parle toujours de l'Europe qui assure pas. Mais si nous avions assuré en 2015, en 2016, comme l'ont fait les voisins allemands ou autrichiens, Emmanuel disait tout à l'heure les Autrichiens, ont appuyé en 2015-2016 l'équivalent pour la France, population comparée, 1.2. Donc arrêtons de taper sur les Autrichiens. Si nous, on avait fait notre job, il n'y aurait peut-être pas eu autant d'extrémistes.
Pierre,
en Allemagne et en Autriche. Vous voyez,
mille fois merci Pierre, je suis obligée de vous arrêter parce que la liaison est devenue pas terrible. En tout cas, on a bien compris votre message et votre programme, parce qu'il y a tout un programme dans ce que vous nous avez présenté. Pour un tel programme, Jérôme Fourquet, faut quoi? Du courage politique déjà, pour commencer, pour appliquer ça?
Oui, puis mais aussi...
Il faut une parole politique qui accompagne.
Tout à fait. Il y a aussi un changement de logiciel. Intervenant parlait d'un État qui est un peu pataud. Alors je suis pas spécialiste, mais on voit qu'à Calais, Emmanuel Macron dit c'est nous qui allons de nouveau nous occuper de la distribution de nourriture, alors que jusqu'à présent les associations apparemment faisaient ça très bien. Et donc je pense que face aux défis qui sont posés, il y aura besoin de tout le monde, des associations, des citoyens, de l'État, des collectivités locales. Et ce qui est sûr, c'est que on emploie à dessein le terme de crise parce que le choc a été très brutal, même si nous Français, nous sommes pas en première ligne. Vous voyez par exemple, on parlait de le dispatchage, dans un bon français, de cette population de migrants un peu partout sur le territoire, se pose par exemple la question des mineurs non accompagnés. De plus en plus de jeunes arrivent. Et qui doit les gérer? Ce sont les départements. Les départements ont des structures d'accueil, mais pour des jeunes non accompagnés ou des mineurs isolés qui sont nationaux. Et donc on est à des échelles tout à fait réduites. Et là, apparemment, on est à peu près sur un volume de 13 000 mineurs non accompagnés. Et ça, là aussi, encore une fois, les structures d'accueil aujourd'hui ne sont pas adaptées et ont sauté. Ça peut être réglé, mais c'est toute notre infrastructure, toute la logistique qui mérite d'être repensée. Et comme on le disait tout à l'heure, on a beaucoup de mal à s'adapter au rythme où vont les choses.
Julie Pietri, puis ensuite Xavier Emmanuel.
C'est un débat qui est en cours en ce moment-là, sur les mineurs isolés. Ça va se débattre lundi notamment, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les départements, effectivement, sont en première ligne. C'est eux qui sont chargés de la protection des enfants, quels qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers. Le problème qu'il y a en ce moment, c'est que, par exemple, en Seine-Saint-Denis, ils ont eu en 2 ans une augmentation de 85% de l'arrivée de mineurs étrangers isolés. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas capables de les prendre en charge. Ce qui veut dire qu'il y a des mineurs isolés qui dorment dehors aujourd'hui.
Xavier Emmanuel.
Pardon, je voudrais ajouter que l'État a pris des dispositions. On ne reste pas dans un seul département. C'est-à-dire quand il y a des mineurs qui arrivent, on essaye de les dispatcher sur les autres départements, comme que chacun prenne sa part. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous dites qu'il y a 13 000 mineurs étrangers isolés qui attendent de rejoindre leur famille en Angleterre. Et on a 13 000, et l'Angleterre en a pris 800. 800. Donc il y a... Alors pourquoi c'est la France qui prendrait toute seule cette problématique? Et juridiquement, ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit. Mais il y a un barrage là. Et nous, on est en quelque sorte complices, puisqu'on est d'accord avec l'Angleterre.
Catherine Vittol, de Vendel.
Alors je pense que les accords, on a beaucoup parlé des accords du Touquet entre la France et l'Angleterre. Je pense qu'on voit la faiblesse de l'Europe. L'affaire de Calais, ça devrait être réglé à l'échelon de Bruxelles et non pas dans un accord bilatéral entre le Royaume-Uni et la France, où d'un côté nous faisons, pour le compte de l'Angleterre, si j'ose dire, la police pour empêcher que les gens n'aillent au Royaume-Uni. On peut se demander pourquoi, d'ailleurs, surtout après le Brexit. Et d'autre part, il y a sans doute une sorte de marchandage dans cette région, puisque comme c'est une région assez déshéritée, les Anglais sont des touristes et donc sont des gens qui font un tout petit peu tourner l'économie. Donc c'est une sorte de marché, si j'ose dire, réciproque entre l'un et l'autre. Mais c'est tout à fait anormal. Je n'ai jamais vu de situation où nous faisions la police pour le compte d'un autre pays, ce qui est le cas à Calais, qui maintenant ressemble à une sorte de zone de guerre. C'est quand même tout à fait étonnant qu'on n'ait pas pu imposer que l'Angleterre, d'une part, prenne ceux qui avaient des liens après la fin de la jungle au Royaume-Uni pour les mineurs dans un nombre plus important. Et c'est pas normal qu'on se laisse imposer le contrôle des frontières pour le Royaume-Uni et pour le compte du Royaume-Uni.
Il est déjà 19h56, alors vous allez avoir chacun 20 secondes en guise de conclusion. On va faire un tout dernier tour de table. La priorité des priorités pour chacun d'entre vous aujourd'hui, ce serait quoi, Jérôme Fourquet?
Je pense que c'est d'essayer de travailler la coordination européenne, mais ça risque d'être très difficile parce qu'encore une fois, l'Europe n'a pas été pensée pour faire face à cela.
Julie Pietri,
peut-être la question des Dublinés quand même. Il faudrait réévaluer au niveau européen l'accueil des personnes.
Xavier Emmanueli.
Juste pour sourire, hein. Calais avait été occupé pendant 200 ans par les Anglais. On leur rend, hein. On leur rend et on fait les douanes, la police. On a perdu notre souveraineté sur Calais au profit des Anglais.
Bon. En 10 secondes, la priorité des priorités.
Pédagogie. La pédagogie. Expliquer que c'est pas forcément un danger. Et je crois que l'opinion peut se retourner, je le pense, parce que les gens, il y a plein de braves types en France.
Catherine Vital.
Informer aussi. Je pense que c'est un sujet qui est très mal connu. Et donc dire, la migration, ça fait partie des grands enjeux du 21e siècle. Et nous devons prendre notre part. Et d'autre part, il faut que ce soit porté politiquement. Aussi bien à l'échelon national qu'à l'échelon européen. Il y a beaucoup d'associations qui font un magnifique travail, mais qui souvent n'ont pas de suivi de la part de l'État et de la part de l'Europe dans tout ce qu'elles essayent de faire pour que ça se passe mieux.
Alors on essaye quand même ici à France Inter de relayer le travail de ces associations, notamment avec le service de Julie Pietri, le service reportage de France Inter. On le fait au quotidien, mais c'est vrai qu'il y a bien des questions sur le plan politique, sur le plan international. Merci à tous d'avoir participé à ce téléphone sonne. Pour ce qui est de vos ouvrages, je vais peut-être renvoyer au site de l'émission parce que je ne vais pas pouvoir tous les citer à présent. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, notamment Irène Menem, Juliette Gou, à la programmation musicale de ce 18-20, Djoubaka, à la technique Stéphane Boja, Loïc Frapsos, Gilles Gaillard, Julien Dumont. Merci aussi à Jimmy Bourquin ainsi qu'aux standardistes de l'émission. Ah, mais il n'y a pas de pub, c'est fort. Formidable, on va pouvoir rajouter encore quelques secondes. J'avais oublié qu'il n'y avait pas de pub. Julie Pietri, vous vouliez ajouter 3 secondes?
Oui, parce que en fait, je voulais ajouter quelque chose sur on parle de l'Angleterre, du rapport avec la France. La France est en train de veut mettre en place un délit de franchissement des frontières.
Ça, c'est la loi asile
et
immigration.
Qui va arriver au Parlement. En Italie, on comprend pas. On dit mais qu'est-ce qu'ils font? Et ça veut dire que chaque personne qui tentera de passer en France illégalement, on va un an de prison, 3 750 € d'amende. Donc il n'y a pas que les Anglais qui repoussent.
Il n'y a pas que les Anglais qui repoussent. Catherine Vitol de Venden, faire de la pédagogie, vous avez dit, c'est très important, notamment
informer,
rappeler.
Informer, si les gens sont informés, déjà, ils auront peut-être une autre approche. Il faut se dire qu'on ne pourra pas, de toute façon, arrêter l'immigration. Je crois qu'il faut que ça, ce soit dans les têtes de chacun et qu'on peut faire mieux, bien sûr, dans l'accueil. Mais arrêter l'immigration, c'est une fausse idée. On a 30 ans d'échec et je pense qu'il faut abandonner cet objectif qui coûte très cher et qui ne donne aucun résultat.
Rappelez peut-être aussi qu'on est un peuple dans lequel il y a quoi, 2 personnes sur 5 qui sont issues de l'immigration?
Plus que ça, un Français sur 4 a un grand-parent ou un arrière-grand-parent étranger. Donc c'est, la France s'est constituée par l'immigration, elle est au bout de l'Europe. Donc
Et ce n'est pas forcément une catastrophe. Merci à tous.